Hey Mimi, mon pinceau, j'entends rien.
C'était ton idée de repeindre les volets et c'est pas le moment. T'as qu'à descendre de l'échelle si tu veux suivre l'agité du local.
Certains vous diront qu'ils aiment l'hiver pour ses couleurs, la brume du matin ou pour ses rues désertées passées une certaine heure. Mais cette saison, ce froid, pour d'autres, ça annonce plutôt des journées, des nuits de survie si un abri ou un hébergement ne leur est pas proposé. Le 7 janvier, avec la vague de froid, la préfecture a annoncé l'activation de la veille sociale renforcée. Mon invité d'aujourd'hui, Côme Guillard, est directeur territorial de l'urgence et du secourisme de la Mayenne au sein de la Croix-Rouge et a participé à ce dispositif. On échange avec lui dans quelques instants pour bien comprendre ce qui a été mis en place. Dans la suite de cette émission, on découvre ensemble la nouvelle campagne de communication 2024 de Mayenne Tourisme qui nous emmène en promenade dans les plus beaux endroits du département que vous connaissez bien. Une campagne qui a démarré hier et qui met à l'honneur le sport et particulièrement les sportifs mayennais. L'agité du local se terminera bien sûr avec les mots de notre chroniqueur donatien qu'on a le plaisir de découvrir tous les mardis en fin d'émission. Lucie, bonjour à toi.
Bonjour.
Tu nous as préparé un point sur l'actu, on t'écoute à 12h30 environ. Bienvenue amis auditeurs, on commence ensemble l'agité du local de ce mardi 23 janvier. Bonjour, Côme Guillard, vous êtes donc le directeur territorial de l'urgence et du secourisme sur le département de la Mayenne.
Bonjour.
Donc le 7 janvier à 18h, la préfecture a annoncé l'activation du dispositif de veille sociale renforcée. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce dispositif ?
Alors du coup, la Croix-Rouge française a été mandatée par la préfecture de la Mayenne, du coup, afin d'assurer l'hébergement d'urgence des sans-abri, hommes, femmes, couples, enfants, etc. Donc sur le site de la halte de nuit, du coup, qui se situe à l'arrière de la gare SNCF.
Qui sont ces personnes sur le terrain qui interviennent directement dans le cadre de cette veille renforcée ?
Eh bien, c'était des bénévoles donc, qui étaient au nombre de 31 et qui ont réussi à couvrir 24 vacations et qui représentaient environ 180 heures de bénévolat.
L'hébergement d'urgence, les places permanentes, on en compte 175 dans le département tout au long de l'année. La Croix-Rouge, est-ce qu'elle intervient au niveau de ces hébergements permanents ?
Eh bien, en permanence, non. Mais par contre, on peut être sollicité, comme précédemment, pour le plan grand froid et donc du coup sur demande de la préfecture.
D'accord. Donc une vingtaine de places supplémentaires d'accueil ont été ouvertes à Laval et une intensification des maraudes. Quels moyens humains, techniques et financiers sont apportés aux structures qui gèrent ce dispositif-là ?
Eh bien, comme on est mandaté par la préfecture, on est subventionné par la préfecture afin d'assurer les fournitures, enfin de pouvoir se fournir. Donc les lipicos, couvertures, les kits hygiène également, afin qu'ils puissent également se laver sur les sites qui leur sont proposés.
Et vous, en tant que directeur territorial de l'urgence et du secourisme, comment vous intervenez sur ce dispositif ?
Et du coup, moi, j'interviens de loin. Je fais quelques déplacements sur place, mais ça reste quand même exceptionnel. Je dirige les opérations et après, j'ai un adjoint qui, lui, se charge plus du contact sur place. On se charge du coup d'éditer les ordres de mission, chercher les bénévoles. Parce que du coup, il faut être capable de couvrir les différentes vacations. Il y avait des vacations en matin à couvrir de 7h à 9h, en semaine également, et le soir de 18h30 à 23h30. Donc quelques difficultés aussi à pouvoir gérer en back-office.
Est-ce que les bénévoles sont formés peut-être pour intervenir dans ce genre de situation ? Comment ça se passe ?
Eh bien, du coup, à la Croix-Rouge française, on a deux pôles. On a le pôle social et le pôle urgence et secourisme. Il y a eu autant de bénévoles du social que d'urgence et secourisme à intervenir. Ils sont tous formés à la prise en charge et à intervenir sur les actions sociales. Donc, savoir prendre soin de soi, savoir prendre soin des autres et intervenir dans différentes situations.
Quel est le profil peut-être des bénévoles, là, je me pose la question, qui s'investissent au sein de la Croix-Rouge ?
Eh bien, tout type de bénévoles. On n'a pas du tout de profil type. On peut avoir du directeur d'entreprise, de l'étudiant, enfin également du service civique, éventuellement, si on en a au moment de l'événement. Mais on a absolument tout type de profil.
Donc, on parlait tout à l'heure du nombre de places qui ont été ouvertes, une vingtaine. Est-ce que ce nombre de places a été suffisant par rapport aux besoins qu'il y a eu dans notre département, sur Laval en l'occurrence ?
Eh bien, écoutez, à ma connaissance, on a réussi à pour héberger tout le monde. Il n'y a pas eu de relogement ou de nécessité d'ouvrir un autre hébergement d'urgence.
Et donc, ce lieu de la halte de nuit qui a été utilisé pour ces hébergements, ces places supplémentaires, comment ça s'organise au sein du lieu pour pouvoir accueillir ces personnes, ces familles ?
Eh bien, du coup, là, c'est la halte de nuit et leurs salariés qui se chargent, eux, d'après leur procédure, du coup, de pouvoir attribuer et de faire en sorte d'accueillir tout le monde dans les meilleures conditions possibles.
Donc, l'accueil se fait le soir. Est-ce qu'il y a une heure où les personnes doivent repartir ? Comment ça s'organise concrètement ?
Alors du coup, ils peuvent être accueillis par la Croix-Rouge française à partir de 18h jusqu'à 23h30. Après, c'était pris en compte par les salariés. Et en fait, il fallait qu'ils quittent par contre les locaux à 9h dernier quart.
D'accord. Et donc, s'il y a des personnes qui refusent d'être prises en charge, est-ce qu'il y a des dispositions particulières de mise en place dans ce cas-là ?
Bah, malheureusement, on ne peut pas contraindre et forcer les personnes à être prises en charge. On fait le nécessaire. On essaye d'être le plus motivant possible, mais malheureusement, on ne peut pas forcer les gens et les contraindre.
Est-ce qu'on peut rappeler les risques en fait, à rester dans le froid une nuit comme ça, avec les températures qu'on a pu avoir ?
Les risques sont évidemment l'hypothermie, la chute de la température corporelle. Hein. Même avec une couette ou un duvet, malheureusement, on se refroidit très vite. En plus, le goudron étant très froid, le vent, etc., et le risque majeur reste quand même le décès.
Parce que l'hébergement d'urgence ne permet pas d'accueillir les animaux accompagnant les personnes sans domicile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en cours de réflexion sur cette problématique-là ?
En cours de réflexion, très certainement. Ce que l'on sait, c'est que nous, on l'a bien pris en compte et on a fait en sorte de le faire remonter.
D'accord. Parmi ces personnes en grande précarité, on compte évidemment des familles, donc aussi des enfants. Il est évident que chaque situation est très spécifique, mais est-ce que vous avez remarqué une évolution en termes de profil de ces personnes vulnérables par rapport peut-être aux autres années, aux années précédentes ?
Pas particulièrement. Aucune information ne m'a été remontée en ce sens. Pas d'évolution particulière du profil.
D'accord. Ce qu'on peut remarquer en termes de chiffres au niveau national, une augmentation des enfants, des femmes et des personnes issues de l'immigration. Donc cette augmentation, vous trouvez pas qu'elle se reflète particulièrement dans le département ?
Elle n'a pas été tout simplement ressentie au sein de la halte de nuit. Hein.
D'accord. Bien, j'avais une question par rapport au statut administratif des personnes, parce qu'il y a eu la loi immigration qui a été votée le 19 décembre. Je voulais voir un petit peu les effets qu'il pouvait y avoir sur l'hébergement d'urgence. Dans cette loi, il y a l'article 19 qui prévoit, je cite, que l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit au séjour en France et faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être hébergé au sein du dispositif d'hébergement d'urgence que dans l'attente de son éloignement. Est-ce que cette condition d'accueil intervient en période de grand froid ?
Eh bien, écoutez, là-dessus, je ne peux pas vraiment vous répondre. C'est vraiment les salariés de la halte de nuit, du coup, qui se sont chargés de faire le premier accueil et le tri et le filtre. On ne va pas l'appeler comme un tri, le filtre à l'entrée.
Et donc, dans l'hébergement d'urgence qui est proposé, les équipes sont aussi présentes en termes d'écoute.
Oui, totalement. On n'est pas juste là pour leur fournir un lit picot. On est aussi et surtout là pour les écouter et faire en sorte de pouvoir les aider, même sur le long terme. C'est-à-dire que s'ils ont d'autres besoins, on leur communique l'adresse de nos locaux, on leur communique les différentes personnes vers qui ils peuvent se retourner, et on ne les lâche pas à 9h le lendemain matin.
Oui, parce que vous nous disiez, il y a des personnes parmi vos bénévoles qui sont là plus en termes de secours, d'autres plus en termes de social. Quelle est la différence concrètement sur le terrain ?
Eh bien, aucune différence sur le terrain, mis à part que certains ont plus de compétences que d'autres en termes de secourisme, mais sinon, pour le tronc commun et ce genre d'accueil, on a tous les mêmes bases.
On imagine l'impact émotionnel pour vous et pour les personnes sur le terrain par rapport à toutes ces situations que vous rencontrez concrètement. Comment vous, ça influence votre engagement de voir ces situations-là ?
Eh bien, nous, l'ensemble des bénévoles sont suivis par un psychologue, enfin, ont la possibilité d'être suivis par un psychologue et il y a beaucoup d'écoute envers les chefs d'équipe et l'encadrement. Donc évidemment, on prend bien soin de nos bénévoles, on essaye de répondre au maximum à leurs besoins et faire en sorte qu'ils ne restent pas sur une situation mal vécue.
Et vous, quand vous vous êtes engagé à la Croix-Rouge, quelles étaient peut-être vos valeurs, vos convictions pour suivre ce chemin-là ?
Eh bien, à la base, moi, je me suis engagé à 16 ans à l'unité locale de Rennes de la Croix-Rouge française pour faire du secourisme pur. Après, j'ai gravi entre guillemets les échelons pour terminer directeur territorial. Mais ma motivation première, c'était de pouvoir aider l'autre dans toute situation. Et de pouvoir assurer principalement des postes de secours, mais après du coup j'ai pris aussi goût aux situations d'urgence et à intervenir sur les différents publics.
Donc on peut rappeler peut-être pour terminer, pour être mis à l'abri du froid la nuit, les sans-abri doivent appeler le SAMU social. Le 115 peut orienter les familles. Est-ce que c'est juste ce que je dis ?
Ouais, c'est bien ça.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Et bien de rien, merci.
Merci. Dans quelques minutes, c'est l'actu en bref avec Lucie. Avant ça, un petit bonheur pour nos oreilles. On ne manquera pas de vous faire découvrir les artistes présents sur les différents festivals de la Mayenne. Ça y est, les premiers noms sont sortis un peu partout. Les passes déjà en vente. Aujourd'hui, on prend la pause avec Deluxe qui sera présent sur la scène du Foin de la Rue. On prend la pause ou on fait une pause avec le titre Toum Rakak. Yeah, but keep stumbling in the weirdest scenes. Warnings sure did ignore it. Sniffing the carpet floor. Treasures lost in gold, real deep leftover body crowns. Cat hair, blueberry gown. Someday the worms will find this board and mature right to the core. Give me my due and more.
To die long when you feel we've gone beneath.
Et aujourd'hui, dans l'actualité en bref, chers auditeurs, j'ai envie de vous parler de plein de petits rendez-vous à venir, parce qu'il s'en passe des choses même si on est seulement en janvier. Avant tout ça, quand même, vous le savez très certainement, mais ces dernières semaines ont été marquées par des désaccords sur le prix du lait entre les producteurs et le géant Lactalis. Ce désaccord portait notamment sur la prise en compte de l'augmentation du coût de production pour les exploitants agricoles. Jusque-là, le prix était fixé par l'industriel à 405 euros pour 1000 litres pour le mois de janvier. Des manifestations d'agriculteurs s'étaient d'ailleurs tenues jeudi 18 janvier à ce propos. Et bien ce matin, mardi 23 janvier, Lactalis a fini par accepter la médiation demandée par l'UNEL, l'Union Nationale des Éleveurs Livreurs Lactalis, qui représente les éleveurs chez l'industriel. C'est Thierry Dahan, médiateur des relations commerciales agricoles sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, qui va intervenir pour déterminer les modalités de prise en compte des coûts de production. Un premier pas, mais rien n'est tout à fait gagné puisque la médiation dure jusqu'à un mois et est reconductible une fois. Un petit point sportif aussi, après sa victoire contre Nantes, le Stade Lavallois reçoit le Paris FC en 8e de finale ce mardi 23 janvier au soir. Ça se passera au Stade Francis-Lebasserre à 20h45. Allez, comme promis, on passe à quelques rendez-vous dans les jours à venir pour les rats de bibliothèque. Sachez que samedi 27 janvier, à partir de 15h, une séance de dédicace se tiendra à la FNAC de Laval pour le livre « Debout, secoué par des vents contraires » de Gérard Bodinier. Et puis à Mayenne, le Lyon Club, organise une soirée au profit de la Fédération Enfants Cancer Santé le samedi 27 janvier. C'est la troupe Deux Foisins qui présentera son spectacle Demain peut-être, une pièce de théâtre qui a la particularité d'être sans parole. Pour ceux que ça intéresse, le rendez-vous est samedi 27 janvier au Théâtre Municipal de Mayenne à 20h. Les entrées seront à 15 euros et l'intégralité des bénéfices sera reversée à la Fédération des Enfants, à la Fédération pardon, Enfants Cancer Santé pour la recherche médicale sur les cancers et leucémie des enfants et adolescents. Avant ça, vendredi prochain, 26 janvier, à Saint-Pierre-sur-Èvre, Anne O, historienne locale, vient de raconter la vie pétriarvienne de la première partie du XVIIIe siècle. Ce sera au bistrot de Saint-Pierre-sur-Èvre, le vendredi 26 à 19h, avec un repas proposé par Tayeb, qui est cuisinier maroco-pétriavien. Et puis, dès demain, cette fois, la GOM 53, association LGBT+, en Mayenne, organise une réunion pour préparer sa nouvelle marche des fiertés, qui aura lieu le 29 juin 2024 à Laval. Les personnes intéressées pour participer à l'organisation sont les bienvenues, et la réunion sera donc mercredi 24 janvier, de 17h30 à 18h30, dans les locaux de l'association 4 rue Marceau, dans le quartier Murat, à Laval. Notre petit point météo maintenant va aller assez vite aujourd'hui parce que c'est plutôt très stable. On reste sur des pluies éparses, voire quelques averses, toute la journée sur tout le département. Côté température, ça aussi entre 12 et 13 degrés toute la journée d'aujourd'hui. Bon, Dominique, il est comme nous, il aimerait bien que Dame Nature se donne la peine de changer un peu de temps en temps. Mais demain, eh bien demain, à vrai dire, ce sera un peu la même chose. Des pluies éparses à nouveau sur tout le territoire et toute la journée. Et puis des températures qui restent autour de 12-13 degrés toute la journée également. Même pas un peu de rafale pour faire bouger tout ça, ça soufflera à 15-20 km/h. Attention, petit moment d'originalité, la nuit ce sera la brume et des bancs de brouillard avec des températures qui descendent à 11 degrés. Dominique, cette météo, ça lui fait un peu penser à ses élèves. Ben oui, il a l'impression que mercredi a recopié sur les réponses de son petit copain le mardi. D'ailleurs, ça lui fait penser qu'il doit bientôt préparer un contrôle.
Un voyage inattendu et le sport à l'honneur, c'est la thématique de la campagne de communication 2024 de Mayenne Tourisme qui a démarré hier à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. La Mayenne met en lumière les sportifs, les athlètes du département dans ces lieux typiques que vous connaissez bien. Du musée Robert Tatin au Mont des Avaloirs jusqu'au refuge de l'Arche. Joël Ballandreau, président de Mayenne Tourisme, nous raconte comment la Mayenne sera mise à l'honneur au-delà de notre territoire. Écoutez.
Alors, on est en année olympique, donc pour cette nouvelle année 2024, on a essayé de décliner la thématique du sport, mais façon Mayenne Tourisme, c'est-à-dire qu'en fait, on décline nos valeurs humaines, donc on a des athlètes mayennais, alors de tous horizons, de tous genres, de tout âge, de toute discipline, donc on a des para-athlètes, des athlètes et, passés ou présents de tout niveau, et en même temps, on a essayé de les confronter à nos sites emblématiques, patrimoniaux, touristiques, donc naturels, naturel ou pas. Donc on a une, ce voyage inattendu d'un athlète au milieu d'un site patrimonial touristique qui rencontre un visiteur. Donc le principe c'était ça, de mettre en confrontation nos valeurs du tourisme humaine et de partage et avec notre patrimoine et cette année olympique donc avec des athlètes. Donc on imagine un visiteur qui visite un site et puis qui va au détour d'un chemin, au détour d'une salle, d'un musée, rencontrer un athlète et se retrouver face à un grand cheval au musée Tatin ou une judokate au milieu du Manas et plein d'autres encore.
Et alors, quels sont les enjeux, justement? Qu'est-ce qui est attendu avec cette campagne de communication?
Alors, il faut toucher sa cible. On a ciblé le Grand Ouest parisien, les destinations traditionnelles, mais qu'on veut travailler plus sur le Benelux, par exemple, hein, pour avoir une communication vers ces zones-là. Et puis, les grands pôles d'agglomération autour de nous, donc Nantes, Rennes, par exemple. Et puis, donc Paris, donc, comme je l'ai déjà dit. Et donc, la cible, c'est de toucher ces gens-là, de leur montrer qu'on est là, qu'on existe. Que c'est beau, accueillant et original. Et donc, tout, voilà, il faut se montrer auprès de gens qui sont nos prospects, des gens qui seront qui vivront demain ce voyage inattendu et qui seront très satisfaits de l'accueil mayennais, humain et sympathique.
Et il y aura notamment un affichage de 2 semaines à la gare Montparnasse?
Oui, alors c'est toujours un affichage emblématique parce qu'on sait qu'il est très visuel et qu'il parle aux gens. Donc effectivement, quand on rentrera sur le quai de la gare Montparnasse, on verra sur 6 visuels en front devant les TGV et au-dessus des TGV, on verra la Mayenne et ses athlètes. On l'avait déjà fait une fois avec les Mayennais remarquables et on voit physiquement les gens de chez nous. C'est important, ils sont réels, ils existent. C'est pas des acteurs chez nous, ce sont les gens de notre territoire à chaque fois qu'on met en valeur.
Charlotte Guyon et Bruno Delahaye du club d'escrime de Laval ont tous les deux participé à cette campagne de communication 2024. Ils nous parlent du tournage du clip promotionnel.
C'était assez incroyable, le cadre était vraiment magnifique, l'équipe très sympa et puis c'était un peu exceptionnel d'aller faire des photos comme ça, des vidéos. Donc c'était vraiment très très agréable.
Oui, très, très bien. On avait beaucoup de spectateurs et de spectatrices. C'était vraiment top. On se croirait des vrais acteurs de cinéma. Très moment, très sympa. Le temps était magnifique. Le coucher de soleil, radieux. Super.
Et puis, surprise en fait de se rendre compte qu'on était sur la carte de vœux de la Mayenne. Donc ça, c'était la petite surprise. Très fière, je l'ai partagée à tout le monde.
Louane Philippot, du coup je suis entraîneur au club de gym de Château-Gontier et je suis aussi gymnaste.
Moi c'est Dylan Billy, également entraîneur au gymnastique club de Château-Gontier et puis je pratique aussi encore la gymnastique. C'était une première expérience, on va dire, d'acteur comme ça pour moi, donc c'était plutôt sympa. Pour notre sport, nous, la gymnastique et puis principalement pour les garçons, de faire une promotion de notre sport comme ça masculin, c'est une bonne opportunité. On a beaucoup chez les jeunes, beaucoup de retours comme quoi la gymnastique c'est pour les filles et du coup beaucoup de garçons qui pratiquent la gymnastique qui ont des moqueries du coup à l'école, donc justement c'est une bonne occasion de rappeler que la gymnastique c'est aussi masculin et puis que ça peut être aussi agréable à regarder que les filles.
Le tournage a eu lieu au Refuge de l'Arche et alors apparemment c'était assez sympa l'ambiance et l'environnement dans lequel vous étiez.
On était juste devant l'enclos des singes, donc c'était assez spécifique. On n'a pas trop l'habitude de faire des tournages à côté de ça, mais c'était sympa.
Après une balade en Mayenne, on écoute celui qui nous emmène toujours un peu ailleurs. Et c'est Donatien dans l'agité du local qui n'a pas peur du froid pour quelques heures. Dans sa chronique du jour, il nous accueille dans son jardin d'hiver.
Donatien aime prendre son café sur la terrasse, baigné de soleil, même en plein hiver. Vers midi, la température est clémente. Il s'installe, confortablement assis, et laisse son regard musarder sur le désordre du jardin où les objets ont été abandonnés à la fin de l'été. Décembre, puis janvier, les ont pétrifiés. et leur ont donné un goût d'éternité. Dans une danse indécente, deux chaises entremêlent leurs bras et leurs pieds, équilibre précaire, position acrobatique et même érotique pour peu qu'on ait assez d'imagination. Le serpent qui les tenta n'a pas réussi à s'enfuir. Il est resté là, enroulé sur lui-même, jaune et malade, gonflant ses anneaux sous le gel, s'étirant bien timidement, le midi, en vain, sur le gravier. Le gravier que l'on entend rouler sous les sabots si froids quand on les chausse pieds nus pour aller jusqu'au banc fait de pierre qui dorme sous la mousse. Sous ce banc, assez peu accueillant en cette saison, une soucoupe n'offre qu'un miroir glacé au chat qui a doublé de volume. Donatien n'a pas froid. Tout est figé pourtant. À côté du noyer, le liquide ambar lance au ciel des cris de désespoir. Le râteau prend racine. La brouette, bancale, a baissé les bras et ne semble pas décidée à reprendre sa route. L'ombre de la pergola, bien inutile, s'allonge indéfiniment sur l'herbe où un pivert passerait presque inaperçu s'il ne faisait bouger les feuilles que l'on entend se froisser. Seule conversation dans ce jardin où même la bavarde reste muette. Elle s'était assise là, au beau jour, sous le jasmin dont la couleur et le parfum se rappellent aux souvenirs de Donatien. L'évocation de la belle Ariane faisant rougir le jasmin de ses confidences ressuscite le jardin endormi. La vie reprend. Deux mésanges s'agitent qui se disputent une boule de graisse opulente et charnue. La glycine pousse de longs soupirs. Les charmes marcescents se frôlent. Sous les yeux du chat, les lauriers s'agitent, dérangés par un merle. Une noix, qui se lamente d'avoir été délaissée sur sa branche, espère encore trouver l'énergie de se détacher. Orpheline, une pâquerette que ses sœurs ont abandonnée, persiste à égayer le carré d'un zeste de couleur. Donatien avale une gorgée de café, caresse la surface rugueuse de la table en bois traité, ramasse une branche d'épicéa qu'il a entendu craquer, garde sur ses mains cette odeur qui lui évoque le goût du miel. Février réveille l'essence de Donatien qui veut encore profiter de l'hiver pour dormir un peu, beaucoup, passionnément, et plus que de raison, sans autre raison, que frissonner de plaisir, quelle que soit la saison.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge. nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
C'était l'agité du local sur l'autre radio. Et si cette émission se termine, d'autres vont commencer.
Et oui, Margot, à 19h, on écoute Eldorado, une émission pour les amoureux de la musique folk et du rock.
Et à 21h, c'est Frères de Chaussures.
On change d'univers musical avec Fatshu, qui, tous les mardis, vous parle de rap français.
Il paraît qu'on se retrouve demain et nous serons en compagnie de Céline Launay, coordinatrice au Civambio 53, qui nous parlera de la prochaine édition de Planète en Fête qui aura lieu cette année à Laval. Amis auditeurices, prenez soin de vous, soyez au rendez-vous et d'ici là, faites-le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.